tout au long de l'histoire, la bourgeoisie a dominé en utilisant une certaine organisation. Et dans les temps modernes, c'est l'État, à travers duquel elle domine. Donc, la classe ouvrière, elle aussi, au lendemain de la Révolution, pour pouvoir affirmer sa position, son pouvoir politique, il doit disposer d'une organisation. Mais l'analogie entre l'État bourgeois et l'État de la dictature du prolétariat termine là, c'est-à-dire la nécessité encore d'un pouvoir, car l'État, l'organisation, l'État dont dispose le prolétariat à l'époque post-révolutionnaire n'est pas l'État bourgeois. L'État bourgeois a été démoli, détruit, renversé, démoli complètement de fond en comble, comme le disait Marx, Engels, en ce qui concerne la Commune de Paris. Voulez-vous savoir, messieurs, qu'est-ce que la dictature du prolétariat? Regardez la Commune de Paris, elle était l'exemple de la dictature du prolétariat. Donc, cet état de la dictature du prolétariat n'est pas comparable avec l'état bourgeois, car le pouvoir politique, à travers la Révolution, a subi une transformation fondamentale, une transformation qualitative pour en arriver là, pour se constituer en tant que pouvoir révolutionnaire, en tant que l'état de la dictature du prolétariat. Pourquoi le pouvoir politique a subi une transformation fondamentale qualitative? Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une organisation, qu'il y a un État dont le pouvoir est détenu par la majorité du peuple, et que cet organisme, que cette machine, si on peut s'exprimer ainsi, fonctionne au profit d'immenses majorités des citoyens. Donc, le contenu de la dictature du prolétariat n'est pas un contenu répressif qu'à l'égard d'une infime minorité des fatigués de naissance, des bourgeois qui ne veulent pas se soumettre aux règles du jeu. Autrement, ce n'est plus un État, comme disait Marx, comme disait Engels, comme disait Lénine. Le pouvoir politique, à l'époque post-révolutionnaire, l'État de la dictature du prolétariat, ce n'est déjà pas un État au sens propre. Et cette conclusion venait de la Commune de Paris. Là encore, dans le concept, dans la formulation du concept de la dictature du prolétariat, l'État de la dictature du prolétariat, on voit le jeu de la dialectique, le jeu de la transformation de la quantité à la qualité à un niveau supérieur, car l'État du prolétariat n'est pas l'État bourgeois. Il n'a pas ni le même fondement, ni le même fonctionnement. Je crois que j'ai utilisé mon temps et nous arrivons ainsi après les applications faites par Engels, par Marx, de la dialectique à l'histoire. Vous n'ignorez pas, Engels l'a généralisé au domaine de la nature. Ce sera l'objet de du prochain exposé. Merci. J'ai dit au début, au commencement, le but de cet exposé était vraiment de susciter un débat nourri. Espérons. Alors, allons-y. Oui, vas-y.
Bon, tu as parlé.
Ah oui, Larsen.
Tu as parlé des conditions de passage à la Révolution, qui étaient des quatre conditions de passage qui étaient dans le capital. Bon, tu as parlé de la croissance numérique du prolétariat, de l'augmentation de la productivité du travail, de la paupérisation croissante,
oui.
Des crises de surproduction, et enfin du déclin de la libre concurrence, et en particulier du passage au capitalisme,
oui, oui,
d'État. Bon. Je voulais savoir une première question, mais de détail, dans quelle partie du capital tu avais... On parle du quatrième point, de la concentration du capital, disparition de la concurrence, disparition du capital et, établissement du capitalisme d'État. Bon, ça c'est un point de détail, mais le point principal, je voulais savoir dans quelle optique Marx voyait ces conditions de passage à la Révolution, si c'était un phénomène relativement mécanique, si tu veux, il y avait obligatoirement... Une fois que ces conditions allaient arriver, disons baisse tendancielle, taux de profit, etc., automatiquement révolution, ou est-ce que la lutte des classes, enfin disons, joue un rôle important, si tu veux y a, ouais. Est-ce que ces conditions n'étaient que conditions nécessaires, mais est-ce que c'était passage obligatoire? Tu vois la
question? Non, je te remercie pour ta question, effectivement, elle est extrêmement importante. La façon dont j'ai exposé, ça pouvait laisser entendre précisément mécanique. Non, pas du tout. Pas mécanique. En réalité, Marx, d'abord c'est dans le troisième livre du Capital, à la fin. Ensuite, c'est une lecture, je fais un résumé vraiment très rapide, tu vois comment ça se passe, et ce n'est pas du tout de manière mécanique. Marx observait un phénomène en devenir. Dans son évolution, c'était les concentrations avait commencé. Il parle même déjà de l'État impérialiste. J'ai relevé plusieurs fois, et avec un langage qui devient de plus en plus acerbe, à l'égard de l'État. C'est prostitué de l'État, pour ne pas dire l'autre terme qu'il utilise aussi. Alors, ce n'est pas du tout mécanique. Marx ne se prenait pas pour un prophète, pour prédire l'avenir. Il a commis des erreurs. Il les a reconnus loyalement, lui, Engels. Il ne se donnait pas un statut de prophète. Il ne voulait pas prophétiser de n'importe quelle manière. Lorsqu'on lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Marx, de la situation de la société communiste, comment sera-t-elle son organisation ? » Il a répondu : « Je ne chauffe pas les marmites de l'histoire. Je ne suis donc pas prophète. » Il observait un phénomène en devenir, la concentration, les crises. Il avait observé pendant sa propre vie trois crises économiques plus ou moins de différences d'importance différentes. Et il a vu les concentrations qui avaient commencé, les monopoles, et il pensait que l'ensemble de ces concentrations, de ces monopoles, il a envisagé de façon que j'ai expliquée, en tant qu'un facteur révolutionnaire. Or, l'histoire a pris une tour différente, effectivement. Et là, je crois que tu voulais peut-être introduire un peu Lénine, impérialisme. Là, le phénomène impérialisme, l'explication de la chose, Lénine en donne une juste explication après Marx, effectivement, avec le phénomène impérialisme sur lequel Marx n'a pas du tout parlé, autant que je sache, qu'une seule fois, de façon fondamentale. Dans le discours de La Haye, en 1871, je viens de la Suisse là-bas, on dit 71, en 1871 ou 71, effectivement, dans le discours de La Haye, dans un meeting ouvrier, Marx a une seule fois a dit, la seule fois d'ailleurs où il a admis la possibilité du passage pacifique à la société socialiste. Il a dit, dans l'état de développement où se trouve votre pays et où se trouve l'Angleterre, et si je connaissais mieux vos institutions, je dirais aussi votre pays, il est possible que vous... que la révolution se fasse de manière pacifique chez vous en Hollande. Ce qui laisse entendre indirectement qu'il avait une idée de l'inégalité du développement, le point de départ, base de la théorie de l'impérialisme. Car la plus grande nouveauté de Lénine, c'est la théorie d'inégal développement des économies capitalistes. Or Marx, nulle part dans Marx, je n'ai pas trouvé l'inégalité du développement, qui est donc une production intellectuelle, non pas intellectuelle dans le sens, on l'entend dans l'université, mais dans le sens de l'observation de la réalité dialectique, c'est Lénine. Or, oui, vas-y. Oui. Alors, je ne dis pas que ce soit conçu de manière mécanique, c'est vraiment c'est impossible, c'est enfantin pour Marx qui voit tout en dialectique, action, réaction, interaction, le développement des milliers, des centaines de milliers de facteurs qui rentrent à chaque instant parce que le réel c'est la chose la plus complexe qui soit. Alors par conséquent, le problème mécanique est absolument exclu, et je te remercie pour la précision, car la manière de l'exposer pouvait laisser entendre ce caractère mécanique, effectivement.
Une question subsidiaire, tu as parlé juste après d'auto-organisation du prolétariat. En fait, c'est un terme qui peut être extrêmement vague. Bon, et je voudrais savoir que tu précises comment Marx voyait précisément cette auto-organisation du prolétariat, face en particulier à cette concentration du capital, et en particulier face à l'échec relatif de la Première Internationale. Bon, puisque tu parles du discours de la Haye, c'est la fin de la Première Internationale, et c'est aussi l'échec de la Commune.
Oui.
Donc, est-ce que, après, disons, 71,
oui,
Marx a parlé, a parlé de cette organisation du prolétariat, cette nouvelle, enfin, comment il voyait cette organisation du prolétariat après la fin de la Première Internationale et l'échec de la Commune ? Et en particulier face à la concentration, nouvelle concentration du capital après 1870.
Ah oui, d'accord, j'ai compris. Évidemment, des historiens, certains marxologues qui ont créé ce terme pour eux-mêmes, diront que, je cite textuellement, citer le nom du bonhomme parce qu'il est extrêmement connu, il est français, il est en France, Marx, dit-il, se remettait après la dissolution de la Première Internationale, donc le conflit entre Bakounine, lui, les anarchistes, etc. Il s'en remettait au mouvement de l'histoire. C'est faux, à mon sens. Pourquoi ? Parce que qui est Marx ? Marx est un homme qui a sacrifié son bonheur personnel, femme, enfants, famille, parents. Le mot sacrifice, c'est même juste une image pour frapper, parce que lorsqu'on fait quelque chose consciemment, on n'a pas le sentiment de sacrifice. Il a lutté toute sa vie pour le socialisme, pour le communisme, pour introduire le socialisme et le communisme. Il était parfaitement conscient de l'action et de l'interaction de la pensée, de l'action sur les faits et les faits sur les hommes. Donc, une praxis, un va-et-vient constant entre une réalité qui se transforme, qui se change, et entre un homme que lui aussi change, pense à chaque instant sa pensée et son action. Par conséquent, il ne s'en remettait pas après l'échec de la seconde, de la première internationale, au mouvement de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour un révolutionnaire de se remettre au mouvement de l'histoire? Lénine dirait, ce sont les pantouflards, tels Kautsky, tel le chef de la social-démocratie russe qui a créé le parti socialiste. Plekhanov, tel Plekhanov, dit Lénine, qui se remet au mouvement de l'histoire. Allez dormir tranquille, le socialisme viendra de lui-même, comme si il y avait des choses qui pouvaient venir. Non. Donc, la dissolution de la première internationale avait des raisons objectives, des raisons précises. Il n'était pas contrôlable par les marxistes, il valait mieux l'abandonner la chose. C'est pourquoi il s'est retiré. Et il n'était même pas écouté par ses propres copains, par ses propres, un certain nombre de ses amis en Allemagne. C'est pourquoi il fallait dissoudre l'international qui allait devenir une arme entre les mains, éventuellement, de ses adversaires, sinon de la réaction. Mais pour autant, il n'a pas renoncé. Ça n'avait pas de sens de renoncer pour un Marx, pour un type de dimension de Marx qui a lutté toute sa vie et dans quelles conditions. J'ai lu au moins 50 ou 60 biographies différentes il y a quelques années sur Marx, et à chaque fois dans les mêmes passages je n'arrivais même pas à me contrôler. Il ne faut pas croire que je suis très émotionnel, probablement oui, mais pas trop. Mais à chaque fois, devant les misères, les malheurs que cet homme a endurci, je n'arrivais vraiment pas des fois à retenir mes larmes. Il a lutté. Il est mort, Engels l'a dit, après sa mort, il est né, il est mort comme un soldat sur le champ de bataille. Et il menait sa lutte en fonction des moyens après l'international qu'il disposait. La commune. L'auto-organisation, lorsque j'utilise ce terme, oui, tu as raison. Ce n'est pas dire l'auto-organisation, c'est-à-dire que le prolétariat, laissons-le, laissons la classe ouvrière s'organiser tout simplement. Il s'organisera de toute façon. Ce n'est pas cette interprétation mécaniste à outrance, non. La classe ouvrière s'organise au cours de la lutte de classe. Et évidemment, Marx ne s'est pas exprimé sur un point précis, c'est-à-dire est-ce que la conscience de classe vient du prolo, du travailleur lui-même, ou bien si cela vient de l'élite. Ça, il ne l'a pas dit, ça c'est Lénine, n'est-ce pas? La conscience de classe vient d'en haut, de l'extérieur, la conscience de la classe ouvrière le conduit au plus fort, au traditionnisme, au syndicalisme, etc. Mais Marx, lui, il ne s'est pas exprimé de façon précise, d'où la précision de Lénine. Mais auto-émancipation, c'est-à-dire, après tout, il faut faire confiance à la classe ouvrière, parce que elle est la victime de cette société, parce qu'elle souffre, parce qu'elle prend conscience à la longue, elle est obligée de prendre conscience. Maintenant, en ce qui concerne le temps, dans quel laps de temps, ça c'est une autre question.
Merci de ce brillant exposé, mais je crois qu'on t'a mal présenté le cycle. On n'est pas des universitaires de troisième cycle, on est des militants de base. Ce serait intéressant peut-être de montrer, et ça c'est quand même très important, de montrer comment la dialectique peut permettre de transformer le discours. Enfin, nous on a un discours bourgeois, un discours qui est influencé par l'idéologie dominante.
Oui.
Et montrer comment dans des, le discours politique, le discours syndical, le discours quotidien peut être influencé par la dialectique.
Tu vois, la dialectique dans l'idéologie allemande, quelque part, sauf erreur, je pense dans les footnotes, page 85, Marx dit ceci, pour répondre à ta question. Saisir la réalité dans sa totalité, c'est déjà une action révolutionnaire. Effectivement, qu'est-ce qui se passe dans l'université, chez les gens cultivés, entre guillemets? J'ai bientôt 40 ans, depuis l'âge de 7 ans, j'étais toujours étudiant, tant que je me rappelle, je continue toujours dans le milieu universitaire. On ne fait, on avance que par l'abstraction. On prend un aspect de la chose. Et Marx, toujours dans l'idéologie allemande, dit « Présenter un aspect de chose, saisir, ne saisir qu'un seul aspect de la réalité, c'est un acte réactionnaire. » Pourquoi réactionnaire? Un aspect? Pourquoi l'abstraction d'un aspect ou de plusieurs aspects est réactionnaire? Et pourquoi saisir la totalité est révolutionnaire? En saisissant un seul aspect, on peut dire n'importe quoi. On peut rester à un niveau marginal, donc non scientifique. Tandis qu'en prenant en prenant un fait et en expliquant la chose par le fait même, on reste au niveau d'une certaine science. Empirisme, cela s'appelle. Tandis que la dialectique, c'est d'aller à la racine des choses, au-delà des faits, les contester, voir la chose dans son développement, dans son devenir. Donc, en donner une explication totale. Une explication d'ensemble. À partir de ce moment-là, on pourrait vraiment citer beaucoup d'exemples. À partir de ce moment-là, il est clair que l'analyse ne sera pas une analyse superficielle, mais une analyse réellement scientifique. Pour résumer, pour répondre à ta question, et c'est mon propre sentiment, je peux me tromper, bien sûr, il faut être militant d'abord, et en même temps, être étudiant, et étudier et militer. Ce que faisait Lénine, ce que faisait Marx, ce que faisait Engels. Lénine dit, à propos de Marx et d'Engels, ils étaient des hommes révolutionnaires et des hommes de parti, des hommes de science, de début à la fin. Voilà ma réponse.
Oui, ça y est. On va revenir un peu en arrière sur la définition de la dialectique. Pour caractériser la dialectique, tu as cité à peu près quatre propriétés, enfin si j'en ai pas oublié. Le changement, la contradiction, l'action réciproque, oui, et la transformation quantité en qualité. Et tu as ajouté à ce moment-là, c'est le progrès par bon. Qu'est-ce que tu entends par bon? Tu pourrais repréciser un petit peu les quatre points et surtout ce dernier point-là.
Entendu. Et tu sais que Hegel avait donné un exemple en ce qui concerne la nature, pas un exemple mais plusieurs, je cite le premier qui me vient à l'esprit, l'exemple de l'eau. Prenez un verre d'eau, chauffez cette eau de 0 degré à 99,9 dixièmes, l'eau accumule des transformations quantitatives et progressives. ce n'est qu'à partir de centième degré, dans des conditions données, déterminées, que cette accumulation des changements quantitatifs gradués donne lieu à un changement qualitatif soudain. C'est la vaporisation. Puisque de 0 degré à 99 degrés, 9 dixièmes ne produit aucune transformation visible à l'œil nu, et puis tout d'un coup, à 100 degrés, il y a la transformation qualitative soudain. C'est un exemple destiné à illustrer comment les changements quantitatifs gradués se transforment terminent par une transformation qualitative et soudain. Lorsque j'ai dit changement quantitatif qui finit par une transformation qualitative ou la loi du progrès par bonde, j'entendais cette loi-là. Il y en a qui l'appellent donc la loi de transformation de quantité à la qualité, d'autres qui l'appellent la loi de la transformation du progrès par bonde. Le progrès par bonde. Et Engels a tendance de dire qu'à l'intérieur de la société aussi, la chose, c'est-à-dire la transformation, la loi du progrès de la société, c'est exactement. Il en va de même dans un verre d'eau que dans la société. Qu'à l'intérieur de la société aussi, se passe de la même manière. La société accumule des transformations quantitatives graduées pendant une très longue période, tout depuis l'Antiquité grecque, en passant par le Moyen-Âge, pendant 25 siècles, jusqu'à Marx et Engels, et tout d'un coup, il y a une transformation qualitative, la rupture entre la philosophie idéaliste et le matérialisme. De la même façon, maintenant que nous sommes dans l'ère de la production capitaliste, la société va accumuler des changements quantitatifs, c'est-à-dire que ces changements, ces transformations n'altèrent pas l'essence même de la société, car tout n'ignore pas que dans le capital, partout, Marx, Engels distinguent entre l'essence et l'apparence. Les transformations quantitatives graduées n'altère pas l'essence des rapports sociaux. Tel l'exemple que j'ai donné, la concurrence, le monopole fait le monopole. Et la naissance des monopoles, la naissance des multinationales à notre époque, c'est quand même une transformation dans la société capitaliste. Mais cette transformation n'a pas altéré l'essence du capitalisme, qui est la recherche de profit. Marx disait, le capitaliste, il préfère à l'accumulation du plaisir, il préfère l'accumulation au plaisir à l'accumulation des plaisirs, il préfère l'accumulation du capital. Le plaisir d'accumulation. Merci, Victor. Alors, précisément, cette essence de la société capitaliste, la recherche du profit, quels que soient ces changements plus ou moins importants, la concentration, le monopole, les multinationales, l'impérialisme, les rapports sociaux, l'essence de ces rapports n'ont pas changé. Et l'essence de ces rapports se transformeront, changeront à partir d'un certain seuil donné, au-delà d'une certaine limite donnée, à un moment donné où vraiment les rapports de production ne peuvent plus coexister, être unis avec les forces productives, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura la transformation qualitative, c'est-à-dire la révolution sociale. C'est clair, s'il y a un parti révolutionnaire, est sous-entendu, c'est parce qu'on ne peut pas dire toutes les choses à la fois dans la même phrase, c'est clair. S'il y a, il y aura, c'est certain dans ces circonstances qu'il y aura un parti révolutionnaire. Partout où le capitalisme est arrivé à un certain stade du développement, d'une façon... Oui, oui, eh bien ça existe. Ça serait vraiment objet d'une longue discussion. Tous les gens qui disent qu'il y a l'embourgeoisement de la classe ouvrière, que la classe ouvrière s'est embourgeoisée, qu'il n'y a plus dans, aux États-Unis d'Amérique, ou bien dans les pays nordiques, ou même dans les pays développés de l'Occident, il y a l'embourgeois. Parce que les gens qui soutiennent ces thèses, la négation de la lutte, l'inexistence des partis révolutionnaires, ils se basent sur les données sociologiques qu'ils ont accumulées, soi-disant observées, entre guillemets, au préalable, en disant qu'il y a l'embourgeoisement de la classe ouvrière. Or, je ne pense pas que le temps puisse malheureusement nous permettre de développer cette thèse. Il y a un livre, sept sociologues de très gros calibre anglais qui se sont réfugiés dans une petite ville britannique il y a 7-8 ans, et ils ont vécu dans la ville la plus industrialisée de l'Angleterre parmi les ouvriers pendant 4 ans, pardon. Jennifer Platt, j'ai pas les autres noms, celle-là je me rappelle. C'était donc une équipe de sociologues de 7. Ils ont vécu parmi les ouvriers, la ville où les ouvriers sont les mieux payés. Toutes les grandes branches de l'industrie électronique, General Motors, etc., sont présents. Les ouvriers sont les meilleurs payés de non seulement de l'Angleterre, mais même de d'Europe. Ils ont leur salle de tennis, ils ont leur piscine collective, des bridges, ils ont tous les moyens primaires, secondaires, tertiaires de confort, etc. Et ces sociologues, ils ont vécu pendant 4 ans avec les ouvriers. Ils les ont interrogés dans l'usine, à la maison, chez leurs femmes, chez leurs enfants. Ils ont bouffé avec eux, etc. Bien. Et le résultat de cette enquête, c'est un texte de Marx écrit en 1844. Le travail est extérieur de l'homme. Au lieu de s'y reconnaître, se reconnaître dans ce travail, il s'aliène. C'est vraiment édifiant ce livre qui a été d'ailleurs traduit. C'est, en anglais, c'est traduit en trois, c'est écrit en trois gros volumes comme ça, mais ça a été en 1972, ça a été traduit. La classe ouvrière s'embourgeoise-t-elle dans la collection Esprit? Il y a un autre, Jean Girette, qui a écrit un livre, Je cherche la justice. Le problème essentiel, c'est que la conclusion des sociologues britanniques ou le français Girette ou d'autres, c'est que lorsqu'on a dans ces enquêtes, une fois qu'on les a dépouillées, l'ensemble de ces ouvriers bourgeois, donc embourgeoisés, déclare qu'ils appartiennent à la classe ouvrière, qu'ils sont ouvriers. Car lorsqu'on dit embourgeoisement de la classe ouvrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, quiconque avance cette thèse, il admet qu'il y a une classe ouvrière, une classe bourgeoise ou petite bourgeoise, et que là, la première, la classe ouvrière, va s'intégrer dans la seconde. Or, ça, qui dit intégration, dit quoi? Dit intégrer au niveau de culture, des relations humaines, de la distraction, de l'école, de fréquentation. Or, une telle intégration n'existe pas. C'est-à-dire, l'ouvrier, il est tout à fait conscient qu'il est ouvrier, qu'il est col bleu, qu'il ne s'intègre pas au col blanc, alors que le phénomène inverse est beaucoup plus facile à observer, effectivement. Et par conséquent, que nous ne sommes pas du tout en présence de l'embourgeoisement de la classe ouvrière. Ce sont des thèses, effectivement, que la bourgeoisie, périodiquement, chaque fois qu'il n'y a pas la crise, elle le sort. Elle a ses sociologues, ses professeurs. Ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Si on dit un peu plus, on allait loin. Par conséquent, c'est une apparence. Il faut aller au-delà de l'apparence. Il faut voir qu'est-ce que l'essence. Et l'essence nous montre que la lutte existe, même aux États-Unis, même dans les pays les plus développés. Et c'est peut-être même de là qui viendront les premiers facteurs, les premiers éléments d'une future révolution mondiale.
Je voulais revenir sur la notion de dialectique et de contradiction. Alors, je mélange un peu peut-être dialectique et contradiction. Tu avais donné un certain nombre de termes, mais enfin, je pense que la contradiction, c'est une notion vachement importante dans la dialectique. Alors, tu as dit que la dialectique ne vient pas du dehors, la dialectique est interne.
Oui.
Bon, alors là, tu as rejeté l'idéalisme. Alors, est-ce que ça veut dire que la dialectique interne est naturelle ? Bon, et à ce moment-là, elle existerait toujours. Ou est-ce que c'est historique ? Et que la dialectique, à ce moment-là, serait vouée à disparaître au bout d'un certain moment, par exemple après la Révolution. Et à mon avis, c'est très important. Par exemple, dans le concept de négation de la négation, est-ce que la négation de la négation, c'est la suppression de la dialectique et de la contradiction ? Or, si c'est ça, ça peut entraîner pas mal de conséquences très graves au niveau politique. Donc, par exemple, le PC français dit que le problème de la liberté, pour lui, ne se pose pas quand il est au pouvoir, parce que le socialisme, c'est la liberté. Bon, pareil, en URSS, on dit que les contradictions viennent toujours de la droite, elles ne sont pas internes, et que Budapest, que Prague, Gdansk, que ça vient de la réaction. Alors c'est ça ma question, est-ce que la dialectique est naturelle ou est-ce qu'elle est historique ?
Ah, en somme, tu veux hypothéquer la prochaine conférence, quoi, si je comprends bien. Parce que nous avons dit au départ que nous réservons la question épineuse de la dialectique dans la nature à la prochaine séance. Je dirais, en ce qui concerne la dialectique est interne, je dis ceci, interne à l'histoire, à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'histoire, comprenne n'importe quelle période, que ce soit la période les périodisations bourgeoises utilisées dans l'histoire ou la périodisation, j'entends par bourgeoise par exemple Schumpeter, tout New York pas qu'il périodise, etc. Galbraith, ça y est, le nom qui m'échappait à l'instant, Galbraith, en ce qui concerne l'économie. J'ai dit ceci, il y a l'autodynamisme interne de l'histoire. Il y a l'autodynamisme, le mot interne, je crois que c'est même de trop. Il y a l'autodynamisme de l'histoire. Dans l'histoire, dans la périodisation marxiste que j'accepte, que je fais bien, donc, que ça soit à la période tout de suite à esclavagiste, que ça soit dans le mode de production asiatique, féodal, servage ou capitaliste, il y a toujours dans l'autodynamisme de chacun de chacune de ces périodes suppose l'existence d'une autodynamisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si on prend déjà le servage, le premier jour qu'un homme a su produire plus qu'il ne consommait, il y a tout de suite un malin qui lui a soutiré la surproduction. Je pense que l'histoire de l'exploitation doit commencer à ce moment-là, tout au début. À chaque période de l'histoire, comment ? n'est-ce pas, quelqu'un qui avait produit moins, qui avait faim, l'autre, tout vous parlez de charité à ce moment-là. Oui. Comment ? Oui, mais notre ami, je crois, veut dire que, en tout cas, l'autodynamisme, c'est-à-dire qu'il y a où la lutte, avec l'histoire de la lutte des classes, commence avec l'histoire d'exploitation, de domination, de gouvernant-gouverné, dominant-dominé. Dès lors qu'il y a la lutte, il y a donc autodynamisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a opposition. Et dès lors qu'il y a l'opposition, la synthèse de cette opposition, c'est quoi ? C'est le progrès. Le progrès, cela est si vrai qu'il y a peut-être 100, 150 ans, on avait parlé, par exemple, de la sécurité vis-à-vis de la maladie. Tout le monde, on aurait pu rironner. Aujourd'hui, la sécurité devant la maladie, jusqu'à un certain point, cela existe. En tout cas, en France, il y a quand même une certaine sécurité vis-à-vis du chômage depuis la loi Giscardien de l'année dernière. Là, cela n'existe pas ailleurs. Ce sont les acquis. Ces acquis ne sont pas tombés, je suppose, du moins, du ciel. On les a obtenus parce que rien, personne ne fait cadeau à personne dans ce monde-là. C'est dans ce sens que je parle de autodynamisme. Tout simplement dans ce sens-là. Autodynamisme parce qu'il y a la lutte, parce qu'il y a l'opposition, et que la synthèse de cette lutte, de cette opposition, c'est le progrès social.